Chrétienne est déjà de vivre de cet amour, de la gloire du Père que nous célébrons ensemble en ce moment, de cette gloire qui crée le bonheur éternel que vivent les personnes divines et qu'elles, dans leur grand amour, acceptent de faire participer en ce moment à tous les anges et ceux qui nous entourent ici, mystérieusement, puisque là le Seigneur. Dans cette sainte réserve, là et autour en adoration sans fin, plutôt des myriades d'anges qu'un seul, et nous sommes environnés de tous ces anges, mystérieusement avec lesquels nous concélébrons. Ces lectures que nous venons d'entendre sont vraiment des lectures qui nous ouvrent, qui nous rappellent ce mystère de l'amour. Ce mystère de l'amour du Seigneur Jésus venu envers nous pour nous guider vers le Père. Et la première lecture nous a rappelé ce commandement fondamental de l'amour fraternel qui est vraiment une première marche dans l'échelle de l'ascension qui s'en va vers le Père. Sainte Thérèse d'Avila en avait fait les trois premières demeures au cours desquelles notre âme passe successivement pour se dépouiller de ses tendances, de ses passions, afin d'être libéré ensuite pour une ascension positive vers le cœur du château. Et ce cœur du château, c'est le cœur du Père. Saint Jean de la Croix avait fait de même en décrivant les nuits de purification de la chair et en deuxième temps les nuits de purification de l'esprit, et tout cela pour entrer de plus en plus dans l'union divine. Saint François, dans son testament, nous avait confié le sens de son cheminement vers Dieu. D'abord, pour lui, ce fut la compréhension de la misère de l'humanité déchue. Il en fit l'expérience dans la rencontre avec les lépreux. Il aurait pu passer à côté d'eux, comme il le faisait avant, par horreur, de rencontrer des lépreux. Il aurait pu ignorer cette condition de souffrance. Le rejet, comme dans l'Évangile où nous voyons le prêtre et le Lévi passer à côté d'un homme blessé par les brigands. En fait, il a reçu une grâce. Une grâce qui dépasse la nature. Et cela l'a amené à faire la rencontre avec le Christ lépreux, avec la souffrance humaine, avec sa propre condition d'être déchu et de recevoir dans cette rencontre un nouveau chemin, un chemin d'une vie nouvelle. Cette rencontre qui ouvre les yeux est bien connue de toute la tradition spirituelle. Saint Grégoire de Nyssa en avait fait le commencement de la vie spirituelle. Il nous a dit que le premier moment, c'était de nous réveiller de l'illusion. Cette illusion dans laquelle on est, nos esprits, le monde est enfermé. Car pour aujourd'hui, pour beaucoup, il me semble que le plus urgent, c'est de se réveiller de cette illusion, de cette illusion de penser que d'abord et essentiellement, la question du salut est sans importance. On ne voit plus pourquoi on aurait besoin du salut, du Christ venu en souffrance dans notre monde pour nous ramener vers le Père. Pour beaucoup, la médecine est là maintenant pour remédier aux maladies, aux dépressions. On n'a pas besoin de la prière, dont on ne sait même plus ce qu'elle pourrait bien apporter de plus. Le mieux, nous dit le monde, c'est de se libérer soi-même par une autorédemption, en se débarrassant de tout ce qui empêche l'épanouissement de soi en ce monde, dont les pratiques les plus diverses de yoga, de culture psychique, de bouddhisme, etc. Et comme le salut est intimement lié à la vie éternelle, beaucoup n'en font plus aucun cas, puisque pour eux, il n'y a que la vie terrestre qui compte. Tout autre à nous est notre vision des choses par grâce. Nous répondons positivement et avec une gratitude de jour en jour au Seigneur qui nous offre d'entrer dans son chemin de rédemption et de le vivre avec lui. C'est une grâce extraordinaire pour nous, que le Seigneur nous offre, avec son compagnonnage très intime, au point qu'il nous invite à nous unir à lui, jusqu'à manger sa chair et boire son sang. Alors, notre vie devient une lumière, une vie de prière en réponse à son amour, une vie de contemplation dont le but est l'union à Dieu. C'est cette compréhension que nous, chrétiens, nous avons de la prière, qui a pour but essentiel de nous conduire vers l'union à Dieu et de la réaliser déjà dans notre cœur et dans notre esprit. Jésus nous a montré que sa préoccupation essentielle à lui, c'était de prier le Père. Cela même ne l'empêche pas, bien sûr, d'avoir une intercession que lui-même a pratiquée pour nous tous. Lorsqu'il dit « Père, je ne te prie pas pour le monde, je te prie pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Père, garde-les en ton nom. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour tous ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi, afin que tous soient un, qu'eux aussi soient un en nous. » Eh bien, il est clair que la prière dans l'Église, c'est celle d'un Fils qui prie le Père et qui passe nécessairement par le Père, par le Fils, pour atteindre le Père. Et c'est cela que le Seigneur nous accorde par grâce, de nous unir à lui pour prier le Père, car nous allons vers le Père. Même si des personnes disent « je prie », et on ne peut pas nier leur intention, mais leur référence au Christ n'a pas beaucoup d'importance pour eux. dans une vision chrétienne, la prière ne peut pas être autre chose que la prière du Fils, qui prie le Père, qui nous entraîne vers le Père. Si quelqu'un prie en vérité, il prie dans le corps du Christ. C'est cela le témoignage que nous avons aussi à rendre. Quand on reçoit, quand on est en relation avec des personnes, leur dire que notre témoignage à nous chrétiens, c'est d'être dans le Christ, à prier avec le Christ, dans l'Église. Nous prions le Père de toute miséricorde. Le Père, c'est la béatitude définitive pour nous. Nous allons vers le Père. Alors on pourra peut-être expliquer en quoi le Christ est vraiment le chemin qui mène au Père. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrivera à comprendre ce mystère, qui n'est en fait compréhensible que par la grâce qu'apporte le Saint-Esprit. La connaissance du Christ et de ses mystères, la vision que nous pouvons avoir aujourd'hui de sa Seigneurie absolue à la droite du Père, sur le monde et dans le royaume, cela est une grâce. Et une grâce qui appelle aussi beaucoup de travail d'ordre intellectuel et spirituel, en plus de la prière. Au point de départ, il faut que pour cela nous soyons d'accord profondément pour entrer dans ce chemin. Et nous savons que la vie spirituelle que nous menons par grâce est une vie qui a ses exigences. Il est navrant de constater autour de nous que beaucoup sont des grands savants, s'informent de tout ce qui concerne la vie terrestre et qu'ils n'ont aucune connaissance des réalités de la vie de la foi, alors qu'ils ont reçu eux aussi la même dignité d'enfant de Dieu, la même structure intérieure d'être à l'image de ce Créateur. Et c'est cela où nous souffrons. Nous souffrons dans le cœur du Christ, de tous ceux qui sont loin et pour lesquels nous prions. Nous nous réjouissons, par contre, de ceux qui ont vécu vraiment cette vie de foi, d'amour, et qui ont maintenant la récompense dans le ciel. Nous sommes heureux de penser à eux, de les évoquer dans notre prière, car eux-mêmes intercèdent pour nous. Jean-Louis nous a rappelé avec beaucoup de précision divers aspects du combat spirituel que nous avons à continuer à mener et qui dépouille l'âme de ses passions et qui nous mène à la vraie liberté. Nos échanges ont porté sur des questions que nous pouvons nous poser et que le monde pose, mais le plus souvent le pose sans référence à l'Église. Eh bien, quant à nous, nous trouvons ces réponses partielles, bien sûr, puisque nous sommes devant un mystère infini, tellement infini, mais nous les trouvons dans la parole. Dans la parole, et qui nous demande à la prendre vraiment comme François le faisait, de tout cœur, et on pourrait dire à la lettre, d'une certaine façon. Car quand, par exemple, à nouveau, nous allons entendre « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », alors là, vraiment, la réalité absolue du ciel et de la terre est là, présente, au milieu de nous. Nous n'avons pas, à aucun moment, un doute quelconque. C'est la parole, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui, à travers le prêtre, est en train de parler. C'est lui qui nous dit cela. Alors, de tout notre être, nous adhérons, nous rentrons dans cette parole, nous la recevons, nous en recevons l'immense bonheur. Soyons en paix, vraiment, petit troupeau, car le Seigneur est bien au milieu de nous. Nous avançons avec lui sur ce chemin qui mène au Père. Voilà. Espérons, nous espérons que cette retraite aura simplement revivifié certains aspects que nous vivons tous les jours. Et nous continuerons, bien sûr, à continuer ce chemin avec une ardeur décuplée. Disons que le peut-être le plus essentiel maintenant pour nous, c'est la ferveur. Continuer à vivre de cette ferveur qui est un don du Saint-Esprit. Et que dans nos combats, eh bien, essayons de rappeler, ça nous dépasse aussi, ce sont des forces divines, c'est des dons de Dieu. Mais vraiment, il me semble que nous avons surtout avec la ferveur. La ferveur parce que c'est une force qui nous fait voir la présence de l'amour et en même temps, et qui nous indique son orientation. La ferveur qui est l'œuvre du Saint-Esprit, ce qui s'accomplit dans la Sainte Trinité d'amour et qui vient jusqu'à nous pauvres pécheurs petits, mais illuminés, transfigurés par ce don d'un Dieu qui nous a créés pour sa gloire et qui déjà nous divinise. Continuons notre chemin d'adoration, notre chemin de prière, de contemplation, notre chemin d'action de grâce. Et jour après jour, vraiment, sachant que cette ferveur pour laquelle nous continuons à lutter, elle est un bien extraordinaire pour le salut du monde. Ce grand mystère de la communion, ce mystère du Christ qui est venu et qui, sur la croix, sauve le monde et qui nous associe à cette œuvre de rédemption, à cette œuvre d'amour, à cette œuvre d'unité avec lui pour dire « Père, notre Père qui es aux cieux ».